Bonsoir tout le monde. Ça y est, nos corps sont déconfinés, à défaut de nos esprits qui ne peuvent toujours pas se nourrir de culture dans les lieux prévus à cet effet, puisque les cinémas, à l'heure où j'enregistre ce podcast, restent malheureusement fermés. Mais le fait que l'on ne puisse pas aller au cinéma ne nous empêche pas de nous créer nos petits oasis nocturnes, dans le cas présent, hein, pour continuer à en parler, pour continuer à le faire vivre et pour continuer à nous interroger sur la façon qu'il a de nous faire vivre, sur les émotions qu'il provoque en nous, sur les réflexions qu'il suscite et sur l'interrogation sur le monde qui nous entoure, qu'il permet. Bienvenue dans votre dernier rendez-vous pour Cinéphile Insomniaque de l'année 2020. Bienvenue dans Somniloque. Somniloque qui est un podcast qui est né eh bien, de ces insomnies dont je souffre, mais qui est surtout né aussi de cette ambiance pesante qui nous entoure, de ce réel qui nous semble si lointain. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette pandémie, c'est à quel point, en fait, tout ça ne paraissait pas réel, alors même que ça l'est, ce qui est évidemment un paradoxe qui est très intéressant. Mais à quel point tous ces événements, tous ces morts, toutes ces restrictions, toutes les décisions qui étaient prises, tout ça, à quel point ça pouvait me paraître éloigné, à quel point ça pouvait me paraître profondément irréel, et à quel point j'avais parfois l'impression d'être dans un rêve, d'être dans une espèce d'errance lointaine et de ne pas réellement pleinement saisir la dimension à la fois sanitaire, politique, ontologique, peut-être philosophique de ce qui était en train de se passer, mais que j'avais simplement l'impression de voir une époque se dérouler et glisser sur moi. Ce qui est évidemment un phénomène d'expérimentation de la réalité qui est extrêmement particulier à vivre, et que pour tout vous dire, en tout cas c'est mon cas, je n'avais jamais vécu, je n'avais jamais eu ce rapport-là aux événements, ce rapport-là à ce qui se passe en fait, à ma conception, à ma vie, à la façon dont ma vie se déroule, et je trouvais que cette période, est... qui, si tout se passe bien, s'achèvera avec l'année 2020, eh bien, était un excellent point de départ pour aborder la question du réel au cinéma, qui est un sujet que cette semaine, je vous ai imposé. Oui, parce que d'habitude, évidemment, nous votons sur Twitter et Instagram, @dexetlecinéma, pour choisir le sujet. Mais cette fois-ci, non, ce fut un petit 49-3, voilà. Républicain, hein, bien sûr, comme disent tous les présidents de la 5ème République, un 49-3 républicain, qui, voilà, j'ai un peu imposé ce sujet, mais il me paraissait évident, en tout cas, de conclure l'année 2020 avec ce sujet-là, parce que l'étrangeté de cette période et le rapport à la réalité très particulier, qui, et je pense pas être le seul à ressentir ce sentiment, qui est en train d'avoir lieu tout autour de nous, dans les yeux de tous nos semblables, bah c'est évidemment quelque chose qui est venu interroger le cinéma dès ses débuts. À partir du moment où on a inventé un appareil capable de rendre compte d'une réalité concrète qui se déroulait au moment de la prise de vue, voilà, les expériences du cinématographe, des Frères Lumière, avec les sorties de l'usine, etc. Dès le départ, dans le fondement même de son histoire, dans le fondement de sa création, le cinéma est un art qui a pour objectif de capter le réel, qui a pour objectif de rendre compte d'une certaine réalité qui a eu lieu au moment où elle s'est déroulée. Et donc cette question du réel est fondamentale dans la compréhension de ce qu'est l'art cinématographique, de ce qu'il devrait être, et voilà, dans le but aussi des œuvres. C'est-à-dire, est-ce qu'une œuvre d'art, comme le cinéma, qui a été, non pas forcément inventée dans ce but, mais dont en tout cas les premiers résultats ont été de nourrir une captation directe du réel, le cinéma a-t-il fondamentalement pour objectif de rendre compte de la réalité ? De rendre compte d'une réalité qui a eu lieu, de venir l'interroger. Et si l'on en croit André Bazin, ça faisait quelques épisodes qu'on ne l'avait pas sorti, mais évidemment, comment ne pas parler de lui au moment où nous abordons ce sujet du réel au cinéma, parce que c'est évidemment le penseur de la question du réel au cinéma à travers son concept d'image-fenêtre, que j'avais déjà évoqué sur la chaîne, notamment dans ma critique de 1917, où je m'interrogeais sur justement cette question-là, cette question de l'immersion, du rapport au réel dans le cinéma, notamment dans le cinéma qui, comme 1917, avait attrait à des événements historiques. Mais c'est une notion qui est fondamentale et qui est extrêmement intéressante, la question de l'image-fenêtre, pour comprendre une certaine vision du cinéma et pour nous interroger justement sur quel est le but du cinéma. En fait, quel est son horizon? C'est-à-dire, est-ce que l'objectif du cinéma, c'est de s'éloigner du réel au fur et à mesure qu'il développe sa propre grammaire, qu'il développe ses propres effets de narration, qu'il, en fait, cherche tout simplement à produire une œuvre d'art qui suit des règles, qui est le résultat de techniques parfaitement spécifiques qui appartiennent à sa dimension à lui. On se retrouve face à des œuvres qui seraient strictement cinématographiques et qui n'en auraient rien à foutre du réel, mais qui s'apprécieraient en tant qu'expérience esthétique purement cinématographique, ou est-ce qu'au contraire, l'objectif du cinéma est de s'écarter le plus possible de l'artificialité et de rendre compte le plus objectivement possible de la réalité de ce qui est filmé. Ce qui est une question, en fait, qui divise l'histoire de l'art depuis que l'on fait de l'histoire de l'art, hein, puisque, pour la petite anecdote, le concept d'image-fenêtre de Bazin, c'est un concept en fait qu'il reprend au philosophe italien du XVe siècle, Alberti, Leon Battista Alberti, qui lui s'en servait en fait pour décrire le fait que certains tableaux rendaient compte si justement du monde que l'on en venait parfois à oublier que l'on était en train de regarder un tableau. Et Bazin, grand penseur du cinéma, va reprendre cette notion-là, qui est donc une notion picturale, hein, pour parler de la peinture, et l'appliquer à l'image cinématographique en venant se questionner sur la capacité du cinéma à rendre compte du réel. Et selon lui, évidemment, c'est ça l'horizon du cinéma. C'est le fait que nous puissions saisir justement le temps dans l'image cinématographique, que nous puissions saisir la réalité dans toutes ses ambiguïtés, dans toute sa globalité. En fait, vous filmez une scène en plan large. Vous rendez compte d'absolument tout ce qui s'est déroulé au moment où vous avez réalisé cette prise, ce qui est quelque chose d'incroyable dans l'histoire de l'art, cette capacité de saisir la réalité dans le temps et non pas de la figer à travers, dans un premier temps, et c'est de ça évidemment dont parle Alberti, dans un tableau, puis dans la photographie, le cinéma lui permet de rendre compte du temps également et de cette réalité-là. Et donc, Bazin va élaborer ce concept d'image-fenêtre. Et venir définir la représentation du réel et la capacité du cinéma à non pas interroger le réel, mais à rendre compte de la réalité du réel, si évidemment ça a un sens de le dire comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, à rendre compte de son ambiguïté, de ses paradoxes, de sa puissance, de son caractère parfois insaisissable aussi, et d'immerger le spectateur dans ce réel-là. Je vais peut-être un peu aller un peu loin en disant ça, mais selon moi, en tout cas, ce que je comprends de la pensée de Bazin, et ce pourquoi je le trouve très intéressant, c'est que Bazin a un peu une façon. Alors, il emploie jamais ces termes, hein, c'est moi évidemment qui élabore un petit peu. Bazin, en fait, considère que le cinéma est un témoin de quelque chose. Le cinéma comme témoin, c'est-à-dire vraiment le cinéma, cette idée que le cinéma saisit la réalité et en rend compte sans la dénaturer, sans la transformer. Et c'est beau, en fait, de concevoir qu'un art est capable de faire ça, qu'un art est capable à ce point de saisir le réel, mais est-ce vraiment l'horizon absolu du cinéma? Car tout penseur intéressant, passionnant qu'il soit, André Bazin a selon moi une conception assez intéressante, non pas du cinéma, parce que je pense que ce qu'il dit sur le cinéma est fondamentalement passionnant, mais du réel en lui-même. Et c'est là où j'en reviens à la question du Covid-19. Parce que oui, nous faisons un parallèle entre André Bazin, mort en 1959, si ma mémoire est bonne, je me trompe peut-être de quelques années, mais en tout cas, il est mort à cette époque-là, et le Covid-19, voilà, nous n'en avons plus rien à foutre. Voilà, nous créons des anachronismes gigantesques, ces temps-ci, c'est comme ça. C'est aussi parfois comme ça qu'on construit une pensée en faisant des associations d'idées. Le cinéma rend compte du réel. Certes, le cinéma capte l'essence d'un réel. Mais que se passe-t-il lorsque le réel que l'on expérimente vraiment, c'est-à-dire dans la vie concrète, hein, pas à travers une œuvre d'art, ne nous paraît pas réel. Combien de fois ai-je lu, entendu ou remarqué cette critique que l'on nourrit souvent à l'égard de certains films, de dire ce n'est pas réaliste, alors même que parfois, ce qui se déroule à l'écran est on ne peut plus réaliste. Combien de fois nous sommes-nous tous spectateurs, spectatrices, surpris à nous dire, est-ce que vraiment, là, ce que je suis en train de regarder est réellement arrivé parce que j'ai du mal à y croire? Et combien de fois en sommes-nous venus, lorsque l'on vivait des expériences concrètes du réel dans la vie courante, à nous dire, si c'était dans un film, je n'y croirais pas. Si c'était dans un film, là, ce qui vient de se passer, j'y croirais pas. Je me dirais, mais qui a écrit cette merde? Je me dirais, mais qui vraiment a pu concevoir que c'était une bonne idée comme élément d'histoire? Qui a pu croire que c'était crédible, que c'était réaliste? Et ça, c'est un paradoxe fondamental. Et c'est un paradoxe qui m'intrigue, qui m'obsède depuis très longtemps. Le fait qu'on ait ce besoin, en tant que spectateur, en tant voilà, qu'expérimentateur de l'esthétique du cinéma, de vouloir nous immerger avec la plus grande fidélité possible dans un certain réel que nous transmet le cinéma, alors même que le réel que nous vivons ne serait pas crédible une seconde en tant qu'œuvre cinématographique. Ça, c'est passionnant, ça, c'est génial, et pour moi, ça... Ouais, j'ose le dire, c'est un petit peu un impensé chez André Bazin. Ou alors peut-être qu'il l'a évidemment détaillé dans un texte dont je n'ai pas connaissance, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une notion sur laquelle on ne s'interroge pas assez, cette ambiguïté-là, cette opposition, cette fracture, même cette friction, entre ces deux dimensions-là de la question du réel. Est-ce que réellement, ce que l'on cherche au cinéma, c'est la réalité? Ou est-ce qu'en fait, plus prosaïquement, ce que l'on cherche, c'est l'effet de réel? C'est-à-dire le fait, en regardant l'œuvre, d'avoir l'impression de regarder la réalité, mais non pas la réalité telle qu'elle existe, mais une réalité qui est construite et qui nous paraît, selon nous, nos propres codes de représentation, cohérente avec ce que l'on considérerait comme réaliste. Et cette question-là, vraiment, elle me passionne, et elle me passionne d'autant plus lorsque j'ai commencé à lire certains textes d'un historien de l'art qui s'appelle Gombrich, qui est né à Vienne, voilà, si ça... Pour la petite anecdote, voilà, si vous avez envie de savoir où est né Gombrich, et qui nous dit ceci. Et j'aimerais vous lire cette phrase, parce que je la trouve très intéressante, justement, pour venir parler de cette question du réel, et selon moi, justement, elle fait écho à cette problématique-là. Je lis. « Le monde ne ressemble jamais tout à fait à un tableau, tandis qu'un tableau peut prendre l'apparence du monde. » Alors évidemment, lui, lorsqu'il parle de ça, il parle de l'art pictural, hein, de la même manière que Alberti, lorsqu'il utilise le concept d'image-fenêtre, il parle de l'art pictural. Mais appliqué au cinéma, c'est très intéressant de se poser cette question-là. Vous vous rendez compte que l'on accorde plus de crédit dans la représentation du réel à un film? Un film va nous paraître plus fondamentalement réaliste que la réalité elle-même. Mais ce paradoxe, il est fascinant. Excusez-moi, mais moi, c'est vraiment un truc. Je me dis, mais comment cela se fait? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le cinéma possède un tel pouvoir qu'il nous parvient à nous convaincre davantage que l'existence réelle? C'est fascinant, c'est surpuissant, et c'est vraiment, comme je le disais, une question qui m'a obsédé très longtemps, et qui est devenue... en tout cas, j'ai l'impression d'y avoir trouvé une certaine réponse, ou en tout cas, j'ai eu une espèce d'illumination. Alors je vais essayer de vous retranscrire cette illumination-là, qui évidemment ne vaut que pour moi. Voilà, je suis un spectateur subjectif comme chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, un spectateur unique. C'est en regardant La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. Que j'ai évidemment mis, vous l'avez remarqué, en exergue, en illustration de cet épisode, parce que selon moi, la problématique qui se joue dans La vie d'Adèle, c'est le résumé le plus parfait de cette ambiguïté entre réel, impression de réalité, acceptation du réel, et crédit que l'on accorde à la puissance cinématographique. La vie d'Adèle est un film... fondamental pour moi dans l'édification de ma cinéphilie, pour la bonne et simple raison que, 1, c'est, selon moi, l'un des meilleurs films de toute l'histoire du cinéma, et je pèse mes mots, et 2, c'est l'un de mes films préférés. Alors, je vais le prendre comme exemple pour illustrer cette question de l'ambiguïté qu'il y a, du paradoxe qu'il y a autour du réel au cinéma, mais je tiens juste à préciser une chose avant de lâcher les chiens, de lancer la bête, je ne vais volontairement pas parler de la question des scènes de sexe. Tout simplement parce qu'en fait, je veux faire un épisode de Somniloque qui arrivera quand vous en aurez envie, vous voterez pour savoir quand est-ce que cet épisode arrive, sur la question de la représentation du sexe au cinéma spécifiquement. Vraiment, voilà, je trouve que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je trouverais intéressant que l'on en parle, et je veux parler de La vie d'Adèle, en tout cas des scènes de sexe de La vie d'Adèle, dans ce cadre-là. Et je ne vais volontairement pas en parler maintenant, parce que c'est pas ça qui m'intéresse pour démontrer ce que j'ai envie de démontrer. Et puis surtout aussi parce que je trouve ça quand même un petit peu insupportable que l'on monopolise 2h50 d'œuvres cinématographiques autour de 15 pauvres minutes de scènes de sexe où on voit deux nanas se lécher la chatte. Voilà, c'est dit très crûment, mais c'est fondamentalement ce que je pense. Je commence à en avoir ras-le-bol que l'on ne parle que de ces scènes de broutage de binous, alors qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses, une gigantesque puissance esthétique à analyser dans le cinéma de Kechiche. En tout cas, une puissance esthétique qui, moi, me passionne, qui fait de moi un spectateur complètement dépassé par la puissance de ce qu'il regarde, et que je vais essayer de vous expliquer, que je vais essayer de défendre devant vous maintenant. La raison pour laquelle j'ai choisi de prendre La vie d'Adèle comme exemple, c'est tout simplement parce que ce film est le seul film de tous les films que j'ai vus de toute ma vie à avoir provoqué chez moi un sentiment extrêmement particulier et à avoir nourri quelque chose que je ne m'explique toujours pas et que je... qui continue de me fasciner au fur et à mesure que je réfléchis dessus, au fur et à mesure que j'en parle, que je recommande ce film à des gens. La vie d'Adèle est le seul film de l'histoire du cinéma que j'ai jamais vu à m'avoir, le temps de son visionnage, fait oublier qu'il était un film. Et donc, évidemment, vous vous en doutez, quel meilleur exemple que celui-là pour parler de cette question du réel au cinéma? Un film qui parvient à faire oublier à son spectateur, peut-être que je suis le seul et c'est pas grave, je vais me prendre comme exemple, je m'en fous, c'est mon podcast, qui arrive à faire oublier à son spectateur que ce qu'il est en train de regarder est un film. C'est un sentiment très particulier et c'est un sentiment que j'avais tenté de décrire à l'époque dans la vidéo de mes films préférés où je parlais de la vie d'Adèle et de l'amour que j'avais pour ce film. C'est véritablement, je peux pas le décrire mieux que ça, c'est vraiment, c'est un film qui me fait oublier qu'il est un film. C'est-à-dire que moi, je suis un amoureux du cinéma, je suis un amoureux de la réalisation, de l'écriture, de la mise en scène, de la construction. Et malgré moi, peut-être, eh ben, je ne peux pas m'empêcher de remarquer ce que fait un film. C'est-à-dire quand un film me fait ressentir une émotion, quand un film fait quelque chose, que ce soit dans son scénario, dans sa mise en scène, etc., je vois l'outil de mise en scène qui est employé, je vois l'outil d'écriture qui est employé, je dissèque en fait le film en même temps que je le regarde, et je remarque ce que fait le réalisateur, les choix qui ont été faits au scénario, comment est-ce qu'ils en sont venus, toute l'équipe créative, à aboutir à ce résultat-là pour que je puisse ressentir, moi, en tant que spectateur, ces émotions-là. Et La vie d'Adèle est le seul film qui ne me fait pas ça. C'est le seul film où, au bout de, allez, un quart d'heure de film, je me dis, ce que je suis en train de regarder n'est pas un film. Ce que je suis en train de regarder n'est pas un documentaire. Ce que je suis en train de regarder, c'est le réel. C'est fort de dire ça, hein. Et vraiment, j'en ai conscience, mais c'est vraiment ce que je ressens, moi, quand je regarde ce film. Je sais, j'ai l'impression d'être passé dans un autre monde. J'ai l'impression d'assister à quelque chose, d'être le témoin de quelque chose, ce même témoin dont parle André Bazin, pas directement, mais dont il parle tout de même. J'ai l'impression d'être ce témoin-là. J'ai l'impression d'assister à une réalité qui a été saisie par une caméra et je me laisse totalement immerger dans cette réalité-là, au point d'en oublier que ce que je regarde est une œuvre artistique. Pour moi, La vie d'Adèle n'est pas un film de cinéma. Pour moi, c'est la vraie vie, en fait. Et je me suis beaucoup interrogé sur ce sentiment-là qui... Voilà, alors, je dis pas que c'est forcément parfaitement rationnel ce que je suis en train de vous décrire, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'expérimente en tant que spectateur. C'est ce sentiment d'être témoin de quelque chose, de voir la vérité. Avec la vérité de ces gens, la vérité de cette histoire d'amour. Et je me suis beaucoup interrogé sur ce sentiment-là parce que ça m'intéresse de savoir comment Kechiche parvient à provoquer ce sentiment chez moi, qui est, évidemment, vous le comprenez en m'entendant, le sentiment de réel absolu devant une œuvre cinématographique. Enfin, je veux dire, qu'un film parvienne à te faire oublier qu'il est un film, c'est-à-dire que tu ne regardes plus l'œuvre et les propositions esthétiques de l'œuvre spécifiques à son médium, mais que tu t'immerges totalement dans la proposition de réalité qu'elle t'offre, cette œuvre, c'est la définition même de cette quête, de cette image-fenêtre dont parlait Alberti et dont parle Bazin. Et en fait, ça n'a pas de sens que je ressente ça. Par rapport à ce que dit Bazin, par rapport à ce que dit Alberti sur la question de l'image fenêtre, de la fenêtre ouverte sur le monde à travers l'œuvre picturale, même de ce que dit notre cher philosophe viennois lorsqu'il nous parle du fait que le monde ne ressemble pas à un tableau, mais que le tableau ressemble au monde, parce qu'en fait, la vie d'Adèle ne ressemble pas au réel. Et c'est en partie pour ça que ce film me passionne et me passionne toujours autant, parce que c'est la seule et unique fois dans sa carrière que Kejiche a fait quelque chose en termes de mise en scène de très 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 particulier et qu'on ne voit dans quasiment aucun autre film et qui fait que je lui voue une admiration sans borne, en tout cas pour ce film-là. Lorsque, vous êtes tous d'accord avec moi, lorsque l'on expérimente le réel, on voit divers plans, en fait. On voit diverses valeurs de plans. On voit en plan large, on voit en plan serré, on voit en plan très serré, on voit en plan très large, on voit en plan moyen. Enfin bref, on est dans une expérimentation de l'espace, des corps dans l'espace, des corps abstraits aussi, quand on est par exemple très 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 près des yeux de quelqu'un et qu'on ne voit que ses yeux. Voilà, on est dans cette mouvance-là, dans ce regard qui est multiple. En fait, dans notre expérimentation du monde. Mais Kichi, il fait pas ça du tout dans La vie d'Adèle. La vie d'Adèle est un film qui est exclusivement, pendant 3 heures, constitué de gros plans. Ce qui est une décision, en fait, surtout pour quelqu'un qui a un style volontairement presque documentaire, de saisie sur le vif d'effets de réel comme lui. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il fait que des gros plans pendant 3 heures. Pendant 3 heures, je sais pas, alors je sais que la plupart d'entre vous sans doute l'ont vu, mais imagine, toi spectateur, toi spectatrice qui n'a pas vu La vie d'Adèle, te dire, je vais regarder 3 heures de film où je n'ai que des plans visage. Pendant 3 heures. C'est-à-dire que Kechiche, pour rendre compte de l'histoire de son personnage, pour rendre compte de la réalité de son expérience, de son désir, de l'amour qu'elle porte à Emma, pour rendre compte de cette réalité-là, il va volontairement, dans sa mise en scène, évacuer l'élément le plus fondamental de notre expérience à nous du monde, qui est la notion d'espace. Il n'y a pas d'espace dans La vie d'Adèle. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de lieu, alors que, bah, enfin, voilà, c'est ce que je disais, nous on voit dans un équivalent de focale en 35 mm, à peu près pour ce qui est de l'œil humain, on voit en plan relativement large, on voit des lieux, on voit des plans larges, on voit plusieurs personnes en train de s'affairer dans un plan et on voit des espaces. Et notre compréhension du réel, elle se joue autant par la question du temps, par la question des émotions, que par la question de l'espace. Et je suis désolé, je reviens à la question de la Covid, mais le fait que le confinement nous ait fait autant souffrir, c'est parce que justement, cette mesure a nié notre rapport à l'espace. Et nous a fait comprendre à quel point nous avions besoin de l'espace, en fait, de sortir de chez nous, de voir d'autres choses, de voir des lieux. Et Kechiche, lui, il évacue la question du lieu. Il n'y a pas de lieu dans La vie d'Adèle. Il n'y a qu'une abstraction du lieu. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que ça se passe dans le Nord, on le sait, mais en fait, à aucun moment le film ne nous le dit vraiment. À aucun moment le film ne nous montre l'endroit où ça se passe. Les lieux sont purement et strictement fonctionnalisés. Elle est au lycée, hop, voilà une classe voilà une classe, c'est un lycée, on s'en fout où c'est, quand c'est, elle est en quelle classe, on sait pas. Oh, ils sont au bord d'une rivière, d'un fleuve, où ça, quand ça, dans quelle ville, quel fleuve, quelle rivière, on sait pas. Et évidemment, on ne verra le fait qu'elles sont assises au bord de l'eau que le temps d'un très court plan. Hein, parce que ce qui intéresse Kechiche, c'est le visage, c'est l'âme de ces personnages-là. Et c'est complètement, je suis désolé, et je m'emporte parce que ça me fascine, mais c'est complètement antinomique de vouloir rendre compte de la réalité de quelque chose et de totalement nier la question de l'espace. Et de totalement se centrer uniquement sur l'âme des personnages et sur leur visage. Et alors on pourrait se dire, oui, mais en fait c'est parce que c'est un réalisme poétique et qu'en fait ce qui l'intéresse, c'est de filmer plus ou moins. L'essentialisation des sentiments, mais sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai, Kechiche, c'est pas un réaliste poétique. Kechiche, c'est un mec qui traite de la question sociale. Kechiche, c'est un mec qui est hyper concret dans ce qu'il filme, qui est très direct d'ailleurs, on le voit notamment dans les scènes de sexe, qui est très brutal dans sa façon d'aborder les sujets, dans sa façon d'aborder les situations. Et pourtant, il n'y a pas d'espace. Il n'y a que des visages entourés de flou dans ce film. Et moi, ça me fascine. Ça me fascine parce que cet effet de réel-là, cet effet d'assister à quelque chose... Alors, on pourrait s'interroger là-dessus sur la question du montage, sur le fait qu'il fasse durer les plans, qu'il coupe parfaitement au bon moment à chaque fois, pour que ce soit d'une fluidité exemplaire, mais surtout, comment se fait-il qu'il parvienne à saisir le réel en ne représentant pas le réel? Et c'est là où je trouve ça passionnant de parler de Kechiche en partant de Bazin, parce que Bazin, enfin, je pense qu'il aurait regardé les films de Kechiche en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait, Abdel, là? Ça suffit maintenant! Enfin, filme-moi des décors, les gens, ils évoluent dans des lieux. » Et Abdelatif, il te dit « Non, non, les gens, ils évoluent pas dans des lieux, les gens, c'est des visages avec du flou autour, et c'est comme ça, et c'est très bien, et c'est quand même le réel. » Et moi, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que rien que ça, alors après, il y a plein de choses que j'aime dans la vie d'Adèle, la question du développement humain, la question du rapport à la construction des personnages dans une humanité, justement, à la fois ridicule et sublime, à la fois pathétique et héroïque. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, il y a tout dans la vie d'Adèle. Voilà, c'est un immense, immense chef-d'œuvre. Mais dans cette dimension-là, c'est que c'est un film qui arrive à me faire oublier sa mise en scène, qui arrive à me faire oublier que je suis en train d'assister à un geste cinématographique conscient, alors même que c'est complètement artificiel de faire ça. C'est complètement artificiel. Enfin, je veux dire, tu ne fais pas que des gros plans. Et pourtant, le film nous le fait oublier. Pourtant, le film nous fait rentrer dans quelque chose d'autre qui est déspatialisé, qui est décontextualisé, qui est simplement la pure émotion des humains. Et ce choix que fait Kechiche là, de rendre compte uniquement des émotions et de comment est-ce que ces émotions façonnent les destins, pour lui, c'est une façon de rendre compte du réel et forcer de constater qu'il a raison. Qu'il a raison, et je pense que c'est quelque chose qui aurait beaucoup intéressé André Bazin, ça. Cette question de l'abstraction. Comment est-ce que le fait de faire un cinéma qui est abstrait, parce que c'est abstrait, La vie d'Adèle est un grand film abstrait. C'est, y a pas de décor, y a pas de contexte, et c'est juste abstrait, c'est uniquement les sentiments, c'est uniquement les émotions, et que pourtant, dans cette abstraction-là, il y a une réalité surpuissante qui traverse l'écran. Et c'est là où j'en viens à la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a peu de temps, j'ai relu l'essai de Walter Murch, qui s'appelle « En un clin d'œil », qui est un essai sur le montage, et en partant de cette interrogation-là, justement, sur la question du réel, la question de comment est-ce que, justement, ce film-là, en particulier, La vie d'Adèle, dans son côté totalement abstrait, dans son côté, bah, onirique, en fait, c'est-à-dire que c'est de l'onirisme de faire ça. Filmer uniquement des visages et décontextualiser tout en ne s'intéressant qu'à l'émotion, en ne s'intéressant qu'à ce que ressentent les personnages et à la poésie pure de leur existence, c'est de l'onirisme pur. Et pourtant, c'est un effet de réel quand même. Et c'est là que, en lisant Walter Murch, en fait, j'ai trouvé la réponse à ce paradoxe, que j'ai trouvé la réponse à cette ambiguïté. On est fatigué, d'accord? Moi, voilà, les vacances se font sentir, il est tard. On est fatigué. Je n'arrive plus à formuler mes mots. Qu'est-ce que je disais? Voilà, la réponse à cette ambiguïté-là, qui est l'idée qu'en fait, le réel au cinéma, ça n'existe pas. C'est l'effet de réel qui prime. Le cinéma ne pourra jamais capter la réalité, le cinéma ne peut que construire sa propre réalité, et cette réalité nous paraîtra réelle lorsque nous accepterons tous ces présupposés, lorsque nous accepterons par la mise en scène qui est employé par le cinéaste, par la cinéaste, que ce que nous sommes en train de regarder, c'est la captation de quelque chose qui a vraiment eu lieu. Alors que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un rêve. Et c'est là où Walter Murch, malgré lui, puisqu'il a évidemment pas du tout écrit cette partie de son essai, en pensant à moi et en pensant à ce podcast que j'étais en train de faire, mais j'aimerais vous lire ce tout petit paragraphe, parce que pour moi, il illustre et il me fait comprendre, en fait, comment est-ce que Kechiche parvient, en faisant un cinéma de l'abstraction, à aboutir à un effet de réel, et à un effet de réel que l'on accepte comme étant une certaine réalité. Je vous lis. « Nous acceptons le raccord, car il ressemble à la façon dont les images sont juxtaposées dans nos rêves. En fait, La violence du raccord est probablement déterminante dans la production de cette similitude entre les films et les rêves. Dans la pénombre de la salle de cinéma, on se dit en effet, ça ressemble à la réalité, mais c'est tellement discontinu. Ça ne peut pas être la réalité. Par conséquent, ça doit être un rêve. Et là, ce que dit Walter Murch, et c'est juste à cause de ce paragraphe, en fait, je vais pas vous mentir que cet essai est mon essai préféré de tous les temps sur le cinéma. Là, ce que dit Walter Murch, c'est qu'en fait, le cinéma, c'est du rêve. Le cinéma, c'est de l'onirisme, et que l'effet de réel que produit le cinéma est en fait simplement une adéquation entre l'effet onirique que l'on a, nous, lorsqu'on rêve des images, et l'histoire qui est en train de se dérouler devant nous à l'écran. La réalité au cinéma n'existe pas. C'est uniquement une interprétation abstraite de la réalité qui nous convainc que nous sommes en train d'assister à quelque chose qui a vraiment eu lieu, et tout ça n'est possible que lorsqu'on vient essentialiser les choses et que l'on vient transformer la narration du réel en une narration du rêve. Parce que regarder un film, c'est comme rêver. Et dans les deux sens du terme. Il y aurait un milliard de choses à dire sur tout ça, il y aurait un milliard de choses à dire sur ce rapport entre le rêve et la réalité, sur cette question de la capacité du cinéma à transmettre le réel, mais en tout cas, une chose est sûre, je reste convaincu que la réalité au cinéma, ça n'existe pas. Que le cinéma ne peut pas saisir, en fait, le monde tel qu'il est, pour la bonne et simple raison qu'il est un art, et que l'art obéit à des règles qui ne sont pas celles du monde, et que le monde qui nous entoure, dans lequel on vit, est bien plus grand, bien plus beau, bien plus absurde, bien plus violent que tout ce que l'art pourra jamais avoir à offrir, et que la seule manière qu'a l'art en général, et donc le cinéma, de saisir ce réel-là, c'est non pas de rendre compte de ce qu'il est tel qu'il est, mais de le plier à des règles qui sont en fait celles de notre interprétation à nous de la réalité, qui sont celles du rêve. Lorsqu'on dit que le cinéma c'est du rêve, lorsqu'on dit que regarder un film c'est comme rêver, eh ben ça a peut-être plus de sens que juste de dire que c'est nous mettre des étoiles dans les yeux. Philosophiquement, ça a du sens de dire ça. Et de nombreux auteurs se sont interrogés sur cette dimension-là. Walter Murch, donc dans son essai, je vous redonne le titre, en un clin d'œil, s'interroge beaucoup sur cette question-là. Et c'est une dimension du cinéma qui me fascine. Et j'espère que m'entendre déblatérer là-dessus à une heure tardive vous aura fasciné aussi. Et je préfère arrêter le podcast maintenant parce qu'en fait, je pourrais parler de cette question-là pendant des heures et des heures et des heures. Enfin, je veux dire, c'est absolument passionnant de voir ce paradoxe être à l'œuvre devant nous dans une œuvre de cinéma et pourtant produire un effet qui n'est pas celui attendu par rapport à la mise en scène choisie. Enfin bref, c'est ça aussi le cinéma et c'est en ça que le cinéma rend compte de la réalité, au moins à sa manière, c'est qu'il est paradoxal. Et j'espère que vous serez encore plus nombreux et encore plus nombreuses à venir pour discuter un petit peu tous ensemble dans ces moments de perdition nocturne, de ces paradoxes, de cette beauté et de cette puissance du cinéma. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous souhaite une très bonne année, je vous souhaite une très bonne nuit pour ceux qui écoutent ce podcast à l'heure où il sort, et ben, écoutez, une bonne journée pour les autres, hein, qui ont la chance de ne pas être insomniaques et de l'écouter le matin, en se levant, peut-être en prenant leur café, peut-être que vous êtes dans votre voiture. Souvent, j'essaie de m'imaginer ce que vous êtes en train de faire au moment où vous écoutez ce podcast. Et ça me fait plaisir, parce que, évidemment, ce n'est pas le réel que j'imagine, mais je me crée un effet de réel en rêvant à ce que vous êtes en train de faire. Voilà, j'espère que ce sujet assez complexe, assez dense et qui suscite chez moi beaucoup de passion, vous l'avez remarqué, vous aura intéressé. Je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.